Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, pour Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel sont responsables de viols de plusieurs femmes à Téra, ville du sud-ouest du Niger, ont affirmé dimanche la Commission nationale des droits de l'homme du Niger et la force conjointe G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l'information et annoncé que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Téra, ont été arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Abdulrazak Idrissa et André Kotmadjingar, nos correspondants au Niger et au Tchad, y reviendront plus en détail. Par ailleurs, le ministère nigérien de la Défense a annoncé hier que 4 soldats ont été tués samedi au lendemain de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum dans une double attaque terroriste dans le sud-est du Niger, frontalier du Nigeria. Un 5e soldat est porté disparu et 6 autres blessés, dont un grave. Plusieurs matériels ont été emportés par les assaillants et plusieurs terroristes neutralisés et leur matériel détruit par des frappes aériennes, selon le communiqué. Pendant ce temps, au Mozambique, un nombre important de rebelles ont été abattus par les forces gouvernementales dans les opérations visant à reprendre la ville de Palma, tombée aux mains de groupes djihadistes après une sanglante attaque le 24 mars, ont déclaré dimanche les militaires sur place. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont repris dimanche à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil Bleu, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba, est perçue comme une menace pour leur approvisionnement en eau par le Caire et Khartoum. La réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique, a déclaré l'hôte de la réunion, le président congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. L'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, était également présent à l'ouverture des travaux de cette réunion qui doit prendre fin lundi. La Libye a reçu une première livraison de vaccins avec l'arrivée à Tripoli de 100 000 doses du vaccin russe Sputnik V au moment où le pays observe une augmentation des cas avec un système de santé fragilisé par les conflits. Le pape François a jugé scandaleux dimanche dans son traditionnel message de Pâques la poursuite des guerres et de la course à l'armement dans le contexte de la pandémie. Il a exhorté la communauté internationale à partager les vaccins contre le COVID-19 avec les pays les plus pauvres. Le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoile lundi de nouvelles règles pour les déplacements internationaux et un projet controversé de passeport sanitaire pour accompagner un retour très progressif du Royaume-Uni à la normalité après de longs mois de restrictions. L'ex-prince héritier Hamza, demi-frère du roi Abdallah de Jordanie, a tenté de déstabiliser le royaume et de porter atteinte à la sécurité du pays en collaboration avec une puissance étrangère, a affirmé dimanche le vice-premier ministre, tout en annonçant une 15aine d'arrestations dont des personnes ayant occupé des postes à responsabilité. La puissance étrangère n'a pas été identifiée. 10 amiraux turcs à la retraite ont été arrêtés lundi au lendemain de la publication d'une lettre ouverte signée par une centaine d'anciens officiers critiquant un projet du président Recep Tayyip Erdogan de construire un canal à Istanbul qui pourrait, selon eux, menacer la liberté de navigation. Les sagas politiques et judiciaires convergent lundi en Israël avec la reprise du procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou et le début des consultations post-élections législatives afin que le président désigne un candidat pour former le prochain gouvernement. Plus de 75 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor. La suite de nos informations. Au Niger, une mission d'investigation de la Commission nationale des droits humains confirme des allégations de viol imputées depuis quelques jours à des éléments du contingent militaire tchadien récemment installé dans la région de Tillabéri dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le bruit courait depuis des jours sur la toile, notamment jusqu'à ce que la Commission nationale des droits humains s'en saisisse et requiert l'expertise d'un médecin légiste pour aller investiguer et établir les faits qui se sont à la fin avérés. Moussa Hamidou Talibi, rapporteur général de la CNDH.
Il ressort qu'il y a eu effectivement viol, notamment sur une jeune fille de 11 ans qui est en classe de CE2 et deux femmes mariées, dont une était enceinte et âgée de 23 à 32 ans. Ce qui est encore plus grave, c'est que ces femmes mariées ont été violées en présence de leur mari sous menace d'armes à feu. Et aux dernières nouvelles, on nous a appris que la femme enceinte a dû avorter. Donc, au-delà de ces trois cas, nous avons cinq autres femmes qui avaient fait l'objet de tentatives de viol, mais qui ont réussi à s'enfuir au moment où, justement, les assaillants se sont introduits dans leur maison. Mais il y a une troisième catégorie, ce sont des femmes qui ont été violées, mais qui n'ont pas voulu témoigner.
Les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas encore réagi à ce scandale condamné par la force conjointe du G5 Sahel, le ministère des Affaires étrangères et l'état-major général des armées tchadiennes. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'Union des démocrates humanistes, le parti de Guy Brice Parfait-Kolela, demande au juge constitutionnel d'annuler le scrutin présidentiel du 21 mars dernier, car ils disent posséder des résultats contraires à ceux publiés il y a une dizaine de jours. Selon les membres de ce parti, leur candidat, Guy Brice Parfait-Kolela, serait en tête. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Le parti de feu Guy Brice Parfait-Kolela affirme avoir réuni quelques 1172 procès-verbaux de résultats du bureau de vote, appelés communément fils jaunes. Il s'agit des doubles qui sont censés être remis aux représentants de chaque candidat. Pour cette élection présidentielle, il fallait 5778 procès-verbaux. L'UDH Youkine a réuni qu'environ 20%. Mais c'est énorme, car aucun parti depuis la présidentielle de 2016 n'avait fait autant malgré les vives contestations. Selon les résultats compilés par l'UDH Youkine, Guy Brice Parfait-Kolela prendrait de l'avance sur Denis Sassou Nguesso avec environ 30 000 voix de plus. Les partisans de Kolela demandent alors à la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats proclamés par le ministre de l'Intérieur. Lucrèce Nguédi, porte-parole de l'UDH Youki.
138 000 voix, soit 7,84%, attribuées au candidat de l'Union des démocrates humanistes Youki sur toute l'étendue du territoire national relève de la pure fiction et met en cause la crédibilité de ce scrutin.
On ignore cependant de quelle zone proviennent exactement ces fiches jaunes. En plus, il sera difficile à l'UDH Youki de saisir le juge constitutionnel vu que les délais de recours sont expirés. Demain mardi, va commencer l'examen des trois recours reçus à la Cour constitutionnelle. Seul un candidat sur les six a reconnu les résultats provisoires publiés il y a une dizaine de jours. Arsène Séverin Brazzaville, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, s'est rendu hier sur le site d'un réservoir d'eau usé, menaçant de rompre, ce qui entraînerait une immense inondation et un possible désastre environnemental dans la fragile baie de Tampa. Bagasikoura.
Le gouverneur a survolé hier le site en hélicoptère et affirme qu'il faut tout faire pour empêcher une inondation catastrophique. Plus de 300 maisons ont reçu l'ordre d'évacuer de cette zone au sud de la grande ville de Tampa. L'état d'urgence a été déclarée afin d'allouer de nouveaux fonds pour affronter cette potentielle crise sur le site industriel de Pine Point, une ancienne usine de phosphate servant à la production d'engrais. Le revêtement plastique de ce réservoir contenant plus d'un million de mètres cubes d'eau usée issue de dragages ou d'eau de pluie notamment a commencé à fuir il y a plusieurs jours. Si nous devions avoir une rupture complète en quelques minutes, environ 340 millions de gallons, plus d'un million de mètres cubes d'eau pourrait se répandre, affirme Scott Hopes, un responsable du comté de Manatee. Selon lui, les modélisations montrent qu'une telle rupture entraînerait un mur d'eau de 6 mètres de haut. Les autorités tentent sans succès de colmater la fuite et pompent désormais de l'eau hors du réservoir depuis la semaine dernière afin d'y réduire la pression au rythme de plus de 100 000 mètres cubes par jour.
Maintenant, les sports avec Élisée Ompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour démarrer avec la reprise du championnat au Togo avec un premier report.
Oui, et c'est à Sokodé, à 340 km au nord de Lomé, que le coup d'envoi de cette saison 2020-2021 a été donné. Un match entre le champion en titre Asco de Kara et Saraspor de Bafilo. On retrouve notre correspondante au Togo, Kai Lyson.
Rejouer au ballon après un an de suspension, les locaux togolais l'ont beaucoup attendu. Eh bien, c'est chose faite. La reprise du championnat, bien que pénible pour les muscles, est accueillie avec le sourire, comme le témoigne Germain Kouadjo, joueur d'Asco de Kara.
C'est une joie pour nous les joueurs, parce que ça fait une longue période que nous n'avons pas compéti. Après une longue reprise, toutes les équipes étaient en difficulté. C'est un premier match des deux côtés. C'était la victoire d'abord pour le moral du groupe, pour le moral de tout un chacun. C'était pas facile en première mi-temps, mais on a donné pour avoir la victoire. Dieu merci, on a eu la victoire et nous sommes satisfaits.
Pour ce premier match de la saison 2020-2021, Asco de Kara a battu Saraspor de Bafilo sur un score de 2-0, dont un but sur pénalty à la 90e minute. Le caractère jeune de l'équipe de Bafilo n'a pas joué en sa faveur, a estimé l'entraîneur de Saraspor, Iso Taku.
On a bien commencé. Notre adversaire a été prenable, mais j'ai une équipe très jeune qui a essayé de contenir les 45 premières minutes. À la deuxième mi-temps, il y a eu des petits relâchements de mes pions et ça m'a valu deux buts. Le championnat est là. On va continuer à travailler, ça va venir.
Alors que la pandémie de Covid-19 sévit, les autorités sportives du Togo ont pris des mesures supplémentaires afin de permettre au championnat d'aller jusqu'à son terme. Kay Lawson, de retour de Sokodé pour VOA Afrique.
Dans ce groupe, la SEK a eu raison de Koroki de Tchamba 1-0. Même score pour Unisport sur le terrain de Bina. En revanche, une première ratée pour Semasi de Sokodé qui s'est incliné à domicile devant Fodjer. Dans le groupe B, belle entame d'entente 2, vainqueur 4-0 de Ande Nontien. Victoire également de l'AS OTR 2-0 face à Tito et de Gomido de Kalimé devant Maranata de Fiocport. Prochaine journée le week-end prochain.
Reprise également des interclubs de la CAF, cinquième journée en Ligue des Champions et la semaine cauchemardesque qui continue pour les clubs de la RDC.
Une période noire pour le foot congolais avec les Léopards inoffensifs le week-end dernier. Ils ont raté la qualification pour la CAN. Le TP Mazembe et l'ASV Club ont été éliminés à leur tour de la Ligue des Champions. Les Corbeaux de Lumbashi battus 2-0 en Algérie par le CR Belouizdad et les Dauphins Noirs de Kinshasa coulés en Tanzanie, noyaux sous les attaques de Simba, score 4-1. Les Tanzaniens assurés de finir premier de ce groupe A. Ils seront accompagnés par le tenant du titre Al Ahly du Caire qui a arraché son ticket grâce au nul 2-2 obtenu au Soudan face à Al Merriek.
Dans le groupe C, Oroya et les Kaiser Chiefs joueront une finale dans une semaine.
Tout à fait. Les Sud-Africains ont infligé une première défaite au Wydad de Casablanca. Leader est déjà qualifié dans ce groupe. De son côté, Oroya de Conakry, quart de finaliste il y a 2 ans, est bien parti pour un nouveau top 8 grâce à sa victoire 1-0 en Angola face au Petro Atlético. Oroya et Kaiser Chiefs sont à égalité 8 points. Et puis, grande première pour Tungut, le club sénégalais avec un apprentissage difficile jusqu'ici. 3 défaites et 1 nul a sauvé l'honneur en rapportant sa toute première victoire face à un sacré client, l'Espérance de Tunis, score 2-1. Le club de Rusfik reste toutefois dernier avec 4 points, car les Égyptiens de Zamalek ont piégé le Mouloudia Club d'Alger sur son propre terrain 2-0 et comptent 5 points. Les Algériens sont toujours deuxième au classement avec 8 points.
Place à l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération, qui en est à sa troisième journée.
Et le Raja de Casablanca a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 à domicile face au Pyramide FC, finaliste de la dernière édition. Les Marocains sont seuls en tête du groupe devant les Égyptiens qui ont 3 points d'avance sur les Zambiens de Nkana, vainqueur en Tanzanie sur le terrain de Nagumo 1-0. Dans le groupe C, le club sportif spatien fait toujours la course en tête malgré son nul 0-0 devant l'étoile du Sahel. Les Sénégalais de Jaraf se sont relancés en disposant 2-0 des Burkinabés du Salitas. Bon coup aussi pour Coton Sport de Garoua, vainqueur 1-0 en Zambie sur le terrain de Napsa Star. Les Camerounais prennent les commandes du groupe B avec 6 points, un de plus que les Algériens de la JS Kabylie accrochés à domicile par la Renaissance de Berkane, score 0-0.
Merci Élisée. Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Niger a un nouveau Premier ministre. 48 heures après sa prise de fonction, le président Mohamed Bazoum a nommé à ce poste Ouroumoudou Mahamadou, ancien directeur de cabinet de son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Les Nigériens scrutent avec grand intérêt les premiers actes de leur nouveau président. Reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
C'est un homme du système que Mohamed Bazoum a nommé comme premier ministre. Ouroumoudou Mahamadou fut en effet ministre des Finances, puis directeur de cabinet du président sortant Issoufou Mahamadou, ce qui confirme son option prise pendant la campagne de continuer dans la politique et la gouvernance de son prédécesseur, comme il le rappelait d'ailleurs dans son discours d'investiture le 2 avril dernier.
Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mahamadou dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristiques et de télécommunications. Je veillerai à l'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie nationale, à la protection des investissements directs étrangers et à la promotion du secteur privé, notamment le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Wallam, Bani Bangou et Tilia.
Le discours d'ouverture de Mohamed Bazoum a été suivi par les Nigériens et beaucoup l'attendent dans les actes.
On l'a entendu. Nous prenons note. Maintenant, on l'attend au tournant. Le tournant, c'est les actes. C'est de traduire son discours en actes concrets pour sécuriser les Nigériens. Avec cette insécurité grandissante, avec la catastrophe qui caractérise l'école publique, avec l'impunité qui a caractérisé la gouvernance de 10 ans.
En tant qu'actrice de la société civile, c'est l'ouverture de l'espace civique qui a été très rétrécie ces dernières années. On attend à ce que ça soit les lois liberticides là, elles doivent être revues.
Bazoum sait mieux que quiconque les conditions dans lesquelles il a été élu. Ce qu'il doit faire, c'est de se comporter en homme d'État rassembleur. C'est de faire en sorte que les Nigériennes et les Nigériens parlent le même langage. C'est difficile, mais c'est aussi ça la responsabilité d'un homme d'État.
La bonne gouvernance, l'éducation et la sécurité, ces trois axes sont prioritaires pour le nouveau président, comme il a si bien dit. Nous lui faisons de bénéfice des doutes et nous lui, en tout cas, conseillons de se référer constamment à son serment coranique.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, les autorités administratives, militaires, mais aussi des ONG et mouvements citoyens condamne les actes de viol et abus sexuels sur des femmes nigériennes imputés à des éléments du 8e bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel basée au Niger. Nombre de ces organisations exigent que les auteurs de tels actes soient punis conformément aux lois en vigueur. André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Selon l'enquête menée par la brigade prévôtale de la force conjointe du G5 Sahel, la Terra au Niger, 3 cas de viol sont avérés et la responsabilité est imputée à certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Terra au Niger. Un cas sur une fille mineure de 11 ans et 2 autres cas sur des femmes mariées en présence de leurs époux sous la menace d'armes à feu informe la cellule de communication de la force conjointe du G5 Sahel. Une situation que déplore le président de la CNDH, la commission nationale des droits de l'homme du Tchad, Dida Oumar.
Il faut reconnaître qu'il y a un travail qui doit se faire au sein de notre armée. Parce que le militaire que nous disposons, ce n'est pas tous qui ont une culture des droits de l'homme. Nous condamnons ce genre d'actes. Parce que c'est des actes qui ternissent l'image de notre armée. Et je crois que ce qui s'est passé est vraiment horrible. Nous sommes entrés en contact avec nos collègues de la Commission nationale des droits de l'homme du Niger, qui sont en train de travailler sur le rapport. Et nous attendons qu'ils nous remettent une copie. Et il faut se mettre au travail pour sensibiliser nos forces en matière de droits de l'homme.
Le ministère tchadien des Affaires étrangères confirme les faits et rassure que les auteurs de ces actes sont déjà arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Il tient à préciser que c'est un cas isolé et qui ne doit pas être exploité pour ternir l'image du contingent tchadien et celle de l'armée tchadienne qui a démontré à suffisance sa discipline sur les différents terrains d'opération.
À chaque fois quand nos forces armées vont ailleurs pour un travail, c'est pour salir le nom des tchadiens. Et pour ce cas-là, si les autorités tchadiennes vont jusqu'à dire que c'est un problème isolé, mais dans ce cas, eux, ils les encouragent.
Madame Djimodoum Bert, femme leader d'opinion, elle se dit très choquée par ce comportement.
Moi, en tant que femme, vraiment, ça me fait très mal parce que la femme est sacrée. Ici même, c'est le même problème et c'est le même comportement-là que eux, ils maintiennent jusqu'à pour aller ailleurs.
Pour Mbernoudi Sosten, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, cette situation relance le débat sur la moralité des éléments qui composent l'armée nationale tchadienne.
Je crois que les viols sont assimilés à des crimes de guerre. Aujourd'hui, cette question du viol, même si le gouvernement dit que c'est un cas isolé, eh bien, cette armée doit être restructurée dans son ensemble pour qu'on ait une armée digne de ce nom.
Le président de la CNDH, Dida Oumar, estime par ailleurs qu'il faut étendre la sensibilisation à d'autres corps qui s'occupent du maintien de l'ordre public.
Écoutez, c'est pas seulement les forces armées qui sont à l'étranger qui ont commis aujourd'hui un viol. Mais il faut voir ce qui se passe maintenant à N'Djamena. Les policiers qui ne connaissent même pas ce que c'est le droit de l'homme. À chaque petite manifestation, on jette des grenades lacrymogènes dans les maisons des ennemis. Et c'est là également qu'ils ont besoin d'une sensibilisation.
Le général de brigade Assem Dermandoua Aguna, porte-parole de l'armée nationale tchadienne, informe que l'état-major des armées se désolidarise totalement de ce comportement indigne. Il promet que des sanctions énergiques seront prises lorsque l'identité et la culpabilité des présumés coupables seront établies. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, est mort samedi à 90 ans. Personnalité morale respectée mais aussi redoutée, le cardinal a souvent eu des divergences de vues avec le gouvernement. Depuis l'annonce de son décès, sa mémoire est saluée par de nombreux Camerounais. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Ces garçons qui sont dans la brousse, ils m'ont capturé.
La voix pesante du cardinal Christian Toumi était singulière et son franc-parler connu de tous. Avant l'élection présidentielle de 2011, il a écrit au président Paul Biya en ces termes « À un certain âge, il faut laisser le pouvoir ». Jusqu'à sa mort, cet originaire de la région du Nord-Ouest s'est investi pour la recherche des solutions au conflit qui oppose depuis 2016 les séparatistes à l'armée en zone anglophone.
Pour que la guerre s'arrête, c'est le président de la République. Il faut que l'armée retourne dans ses casernes et que ses enfants qui retiennent les armes illégalement les déposent.
Pour Marie-Jeanne Abega, membre de la société civile, le Cameroun vient de perdre un grand combattant de liberté.
Il a longuement combattu l'injustice dans notre pays parce qu'il considérait toujours la zone du Nozo
comme étant une poudrière. Le cardinal Christian Toumi a voulu même organiser une conférence anglophone. Cela lui a été refusé.
Les prises de position du cardinal Christian Toumi lui ont valu dès 1991 l'étiquette de cardinal de l'opposition. Il a, en effet, milité activement pour l'avènement de la démocratie. Le docteur Nick Nguanyan, homme politique, témoigne sur les convictions du défunt.
He once told me, if I were not a prelate, I would go in politics, and this is what I would do. That was on the 8th of December 2008, and he asked me to do what he could not do because he's a prelate, and that's why I do the things I do.
Le cardinal rêvait aussi d'une alternance politique au Cameroun. Il a d'ailleurs préfacé l'ouvrage intitulé « L'offre orange pour l'alternance, notre légitime ambition pour le pouvoir, la nouvelle génération s'engage ». Hilaire Kamga, coordonnateur du mouvement L'offre orange, a côtoyé Christian Toumi pendant 25 ans.
Tu pars sans voir ce moment où les Camerounais devaient enfin être fiers de se saluer sans regarder les ethnies, les origines, les déséquilibres sociaux. Mais je sais en même temps que tu laisses à ceux qui ont cru en toi et ceux qui ont eu tes conseils, tu leur laisses cette mission de parachever ça.
Dimanche, jour de célébration de la Pâque, les chrétiens catholiques ont rendu un vibrant hommage au premier cardinal camerounais désigné en 1988 par le pape Jean-Paul II, Abbé Abraham Dongo Minkala, de la paroisse de Mvan à Yaoundé.
C'est un grand pasteur que l'humanité a perdu. Nous devions prier pour que Dieu nous envoie un autre grand pasteur à la dimension de ce grand pasteur que nous plairons.
C'est sous l'impulsion du cardinal Toumi que l'Église catholique a mis en place au Cameroun l'Observatoire chrétien des élections, dont les rapports sont très attendus à l'issue de chaque scrutin. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Gabon, c'est la fin de la période de ponte des tortues marines. Chaque année, à la même période, entre les mois d'octobre et d'avril, des milliers de tortues marines viennent peupler la côte de ce pays d'Afrique centrale, souvent victimes de braconnage, mais aussi de plus en plus menacées par l'urbanisation et la pollution des déchets plastiques. Ces animaux peuvent bénéficier de la protection des organisations non gouvernementales qui luttent pour leur survie. Reportage sur une des plages de Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Oumar Baldé dirige une équipe de randonneurs du dimanche. Il sillonne les plages pour les débarrasser des déchets plastiques qui sont une source de pollution de la faune marine.
Si une plage est polluée, et c'est vrai que les tortues vont avoir des difficultés de pondre et après de retourner à la mer. On doit enlever ces différents déchets qu'ils ont sur cette plage, et non seulement qui est bon pour nous-mêmes en tant qu'humains, mais qui serait idéal pour ces animaux qui viennent pondre sur ces plages.
Bien plus qu'une simple mission de préservation d'une espèce contre laquelle pèsent plusieurs menaces, les défenseurs de l'environnement estiment que la qualité des plages constitue un enjeu de développement urbain. Marcy Emilienne, d'origine américaine, est bénévole de l'ONG Tortue Tahiti.
Que si les plages sont propres, vous aurez plus de touristes qui vont venir, et comme ça aussi, ça va augmenter l'économie du Gabon. Mais c'est beaucoup mieux, c'est mieux pour les animaux. Les gens, il y aura moins de bactéries, la mer va être plus propre.
À Libreville, on estime à 600 tonnes la quantité journalière des déchets produits par les ménages. Pour Yasmin Osamobam, un défenseur de l'environnement, les plastiques menacent l'habitat des tortues marines.
Que nous avons eu cette chance-là de voir les tortues marines, et si nos enfants ne profitent pas, ce sera dommage. Et voir une espèce disparaître, c'est triste.
Chaque week-end, Nathalie Beauville, présidente de l'ONG Tortue Tahiti, démarre sa patrouille aux alentours de la corniche tout au nord de Libreville. Ce matin-là, ses équipes ont fait une énorme découverte. Il s'agit d'une couvée de bébés tortues à peine sortie de l'éclosion.
Ce matin, donc, on a trouvé tous ces bébés tortues qui étaient désorientés et qui, au lieu d'aller vers la mer, partaient dans tous les sens. Ce matin, on en a ramassé 40. Et là, après, on les redépose sur la plage pour qu'elles puissent rejoindre la mer. Alors, c'est important, quand on les retrouve, de les laisser elles-mêmes marcher sur la plage pour aller vers la mer.
Grâce au travail de cette ONG, près de 1500 tortues sont relâchées chaque année et la vente de la viande de l'animal, très prisée au Gabon comme ailleurs sur le continent, est en net recul sur les marchés. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.